ce qu'il dit, de la vie chrétienne qu'il aime particulièrement. Il doit l'utiliser au moins trois fois, c'est l'image de la course. Il compare la vie chrétienne à une course dans un stade. Et il y a d'autres passages où il fait exactement la même chose. Et il dit, je ne pense pas avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Et c'est autour de ce passage que je voudrais qu'on puisse ensemble réfléchir un petit peu ce matin. Tu peux passer la deuxième, s'il te plaît.
La télécommande.
Hein ? Ah, c'est moi qui ai la télécommande. Ici, elle est plus fidèle au texte grec. Oubliant ce qui est en arrière, et puis littéralement, c'est pas me portant vers ce qui est en avant, c'est en avant tout tendu. Et ça m'a fait penser, pour bien illustrer cela, à cette dame qui saute, qui est en train de sauter elle est en avant, je ne sais pas si vous avez déjà vu des coureurs de haies comme ça, mais en avant, ils sont vraiment tout tendus quand ils sont au-dessus de la haie, pour arriver à passer au-dessus de la haie. Et je vais prendre plusieurs images comme ça de coureurs à pied, hein, quelques images, trois, quatre, encore quatre images je crois, et à chaque fois ça correspond à un des aspects de notre course avec Dieu. Et la première image, donc, c'est celle-là, c'est cette sauteuse de haie qui est toute tendue vers l'avant. Et je crois que dans la vie chrétienne, si on veut avancer, il faut qu'on ait absolument une attitude qui soit telle que celle-là. Oubliant ce qui est en arrière, et en avant tout tendu. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que ce qui est derrière, ben, on l'oublie ? Ce qui est facile, ce qui était difficile, les événements parfois traumatisants. Non, on ne l'oublie pas. Mais ça, il faut... Ben, disons que ce qui est derrière, à quoi est-ce que cela doit nous servir ? À quoi peut bien nous servir ce qui est derrière ? Et en un sens, on l'oublie, mais en même temps, on l'a vécu. Et l'ayant vécu, On, selon notre vécu dans le passé, on ne peut pas être la même personne. Hein, tu as un certain vécu, moi j'en ai un autre, et en fonction de ce que j'ai vécu dans le passé, ben, je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc oubliant ce qui est en arrière, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'on ne tient pas compte ? Est-ce que ça veut dire que ce qui est derrière, c'est comme si c'était où ? C'était effacé, voilà. Est-ce que ce qui est derrière, on a passé un grand coup d'éponge sur le tableau blanc ici, et, ou noir, est-ce qu'on a effacé tout ce qui était derrière ? Ça ne veut pas dire ça. On peut pas l'oublier. Non seulement on l'oublie pas, mais il y a plus que ça même. J'ai une expérience en fonction de ce que j'ai vécu dans le passé. Mais qu'est-ce que ça veut dire, oubliant ce qui est en arrière ? Ça veut dire qu'il ne faut pas que ça m'handicape pour aller vers l'avant. Sinon, des fois, il faut retourner en arrière. Appuie sur ce qui est derrière pour me projeter en avant. Et si j'arrive pas à avancer, parce que ça peut arriver, bien sûr qu'on soit bloqué comme ça dans notre course chrétienne, qu'on loupe un passage de haie éventuellement, il faut parfois se retourner. Puis ce qui est en arrière, il faut pouvoir en parler avec quelqu'un. Il faut pouvoir en parler avec Dieu. Il faut pouvoir prier pour certains événements qui sont en arrière. Moi, je sais que j'ai vécu des choses il y a très très longtemps. J'ai un jeune frère qui est décédé. J'en parlais avec Monique hier. Ben, c'est un événement du passé. De temps en temps, c'est pas évident, quoi. Encore 30 ans plus tard, hein, je veux dire. Donc, je remets ça à Dieu. Et puis, quand je le remets à Dieu, il y a quelque chose qui se passe qui me permet de continuer d'aller vers l'avant. Et je crois qu'on a tous de ces événements-là qui nous empêchent. Qui ne sont pas simplement des choses qui sont des choses qui font notre expérience, mais sont des choses qui nous empêchent d'aller vers l'avant. Et dans ce cas-là, bon, on va en parler un petit peu tout à l'heure, mais je crois qu'il faut le coup de main de Dieu, il faut le coup de main des frères et sœurs pour pouvoir se projeter et pour pouvoir aller plus loin. Mais ce qui est important, c'est
tout tendu vers l'avant. Moi, je trouve que c'est beau, ça. Il y a ce qui est en arrière qui fait mon expérience, mais ce qui est devant, mais j'y vais pas. Je me concentre vers ce qui est devant. Je crois que quel est le but quand on se projette comme ça vers l'avant? Si je me projette vers l'avant, c'est que j'ai un but. Cette dame, elle a un but, c'est de passer la ligne, si ce n'est la première, en tout cas, dans les premiers. Quel est le but? J'ai pas compris. Progresser, Nathalie. Gagner, oui. Mais gagner quoi? Ah, la victoire. Quelle est la victoire ici? On l'a vu en fait tout à l'heure. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ?
C'est notre destinée.
C'est notre destinée. C'est la vie éternelle. Et c'est ça qui nous motive. C'est parce qu'on a cet espoir qu'un jour, il n'y aura plus ni pleurs, ni larmes. Je cite l'Apocalypse, hein. Il n'y aura plus ni pleurs ni larmes, mais il viendra essuyer lui-même les larmes de nos yeux. Et puis, on sera dans la vie éternelle, on sera dans la joie de Dieu, mais dans la joie, cette fois, complète, où il n'y aura plus ni souffrance, ni pleurs, ni larmes. Et on aura enfin gagné le prix de cette vocation céleste en Jésus-Christ. Mais je crois quand même qu'il faut avoir un but lointain, comme celui-là, mais c'est bien aussi d'avoir des buts. Si on veut que notre vie chrétienne ne soit pas trop difficile, puis si on ne veut pas être découragé trop vite, c'est bien qu'on ait aussi des buts qui soient à court et à moyen terme dans notre vie chrétienne. Parce que les buts à très très long terme, comme celui qu'on vient de citer là, mais qui ne se réaliseront que dans très très longtemps, ou en tout cas quand on décédera, quand on sera passé de l'autre côté, ça se réalisera parfaitement. Quand Jésus reviendra, ça se réalisera encore plus parfaitement. Et puis, comme c'est écrit dans l'Apocalypse, un jour, on sera complètement dans cette joie de Dieu. Mais avant, il est bon d'avoir des buts à court et à moyen terme qui vont nous motiver pour, ben, ne serait-ce que pour pouvoir me lever demain matin, pour pouvoir vivre la semaine prochaine, etc. Quel genre de but, par exemple? Est-ce que est-ce que vous avez des buts à court, à moyen terme? Alors, ne dites pas de choses trop personnelles, hein, évidemment, mais des exemples qui ne soient pas trop personnels, puis en même temps qui soient concrets. Est-ce que j'ai un but à moyen terme? D'Ivoire? Alors, je connais Monique, c'est un de ses buts, effectivement, voir des guérisons dans notre Église. Des miracles, des guérisons, voir la puissance de Dieu. Alors ça, c'est un but que tu te donnes? Que tu nous donnes ou que tu te donnes?
Je me donne parce que ça fait longtemps que j'ai à cœur. Et puis pour les questions aussi.
Alors continuons, puis je vais nous interpeller après. D'autres buts?
Faire grandir l'amour et l'unité dans la famille.
Faire grandir l'amour et l'unité dans l'Église, oui.
Dans la famille.
Dans la famille, pardon. Ah, je prenais la famille au sens élargi. Alors les deux sont vrais, hein. On est d'accord. D'autres buts? Pas pour demain matin, mais pour un petit peu plus loin. Je prends des buts à moyen terme. C'est ceux peut-être qui nous motivent le plus, parce qu'en même temps, parce qu'ils sont réalistes. Amener des gens à la conversion. Hein, le but, c'est pas de les emmener ici. Hein. Voilà. Le but, c'est de les emmener à Dieu, en fait, à la conversion. On est bien d'accord. Encore un autre but.
Trouver un travail.
Très bien. Ça, vous avez tous donné des buts qui étaient pseudo-spirituel, et tu nous donnes un but qui est un but concret. Effectivement, on peut avoir des buts complètement qui sont pour la vie de tous les jours. Donc, par exemple, trouver un travail. Quelle question on doit se poser une fois qu'on a défini le but qu'on avait? On définit un but. Vous en avez défini plusieurs, on pourrait en définir beaucoup d'autres. Qu'est-ce qu'on doit faire après si on ne veut pas louper le coche? Parce que se donner des buts, si on ne fait pas autre chose, c'est... Il faut se méfier parce que vous allez être démoralisé, vous allez avoir du mal. Quels moyens je me donne? Une fois que j'ai défini le but, quels moyens je me donne pour y arriver? Effectivement. Hein? Demander la grâce de Dieu, tu as complètement raison. Mais en même temps, il y a des moyens. Par exemple, si je veux avoir une vie de prière, personnellement, c'est un but que je me donne. Une vie de prière plus conséquente. le moyen, ça peut être le matin, de mettre le réveil un quart d'heure plus tôt, enfin un quart d'heure, chacun de juger, mais de mettre le réveil un petit peu plus tôt le matin. Ça, c'est extrêmement concret. Hein. Je mets le réveil plus tôt, je veux une vie de prière qui soit plus une communion plus régulière avec le Seigneur, le matin, je mets le réveil plus tôt. Vous voyez, faut être dans les buts, ça peut être très spirituel, ça peut être très concret, mais dans les moyens, il faut que les moyens qu'on se donne soient extrêmement concrets. La grâce de Dieu, c'est super. Hein. Oui, on va en parler, on va venir à la patience dans un instant, hein. Mais là, je parle des moyens que je me donne pour arriver au but à moyen terme que je voudrais être les miens. Alors, chacun répondra pour lui, je ne vais pas continuer sur cette image tout le temps, mais c'est important de se donner des buts à moyen terme. Il y a le but à long terme, hein. Ça c'est la ligne d'arrivée, vous avez bien compris. Mais il y a les buts qu'on se donne à moyen terme, qui doivent être des buts spirituels, qui doivent être des buts pratiques, effectivement, comme Florie nous y a suggéré. Et là, on doit se donner les moyens d'arriver à ces buts-là. Quels moyens je me donne? Je vous ai laissé donner d'abord vos buts. Mais ça, ensuite, je nous piège un tout petit peu en disant, mais alors maintenant, quels moyens je me donne? Il ne faut jamais oublier, quand je me donne un but, de me dire quels moyens je me donne pour y arriver. Sinon, je suis un rêveur qui risque un jour de déprimer plus ou moins parce que je ne suis pas arrivé au but. Puis il y a tout ce que tu viens de nous dire, c'est que même si je n'y arrive pas, il y a la grâce de Dieu. Heureusement, merci, qu'il y a la grâce de Dieu, parce que sinon, il y a tellement de buts que les uns et les autres, on a loupé jusqu'à présent, qu'on a besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir nous projeter, malgré tout, encore un petit peu plus loin. Voilà. Et puis maintenant, une autre image. Il est dit « Courons avec persévérance ». Et vous voyez que j'ai modifié le texte, je me suis permis, j'ai mis « courons avec endurance ». Les deux termes sont, pas tout à fait, mais sont quasiment équivalents. « Courons avec endurance ». Je ne sais pas si vous reconnaissez le monsieur qui court là, coureur d'origine algérienne, c'est un marathonien français des années 60, 50, 60, très connu par les gens de ma génération, puis enfin même un petit peu avant, Alain Mimoun. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, on se disait Alain Mimoun, quand on faisait des courses avec que j'avais quelques années, 10 ans, avec les copains. Alain Mimoun, c'était le héros français de la course à pied. Cet homme-là, il a couru très très âgé, il a couru jusqu'à 40 ans, il était encore dans les 30 ou 40 meilleurs mondiaux à une quarantaine d'années. Qu'est-ce qu'il a gagné encore? Oh, j'ai noté, mais c'est pas le but de mon propos, mais quand même, il a gagné 32 titres de champion de France. 32 titres. S'il a commencé à 20 ans, ça veut dire qu'il est resté champion de France jusqu'à 50 ans. Donc vraiment quelqu'un qui savait ce que c'était que l'endurance. Et dans la Bible, dans le passage qu'on a lu il y a un instant, Hébreux 12, 1, il nous a dit de courir avec persévérance, de courir avec endurance. La vie chrétienne, ça ressemble plus à un marathon qu'à une course de 100 mètres. Ça ressemble aussi à une course de 100 mètres parfois, mais il faut reconnaître, ça ressemble quand même beaucoup plus à un marathon. Et là, il nous faut être capable de chercher des forces tout au fond de nous, que le Saint-Esprit nous donne, pour pouvoir, jour après jour, un marathonien, c'est pas quelqu'un qui va très très vite, c'est quelqu'un qui sait mettre un pied devant l'autre, l'un après l'autre, sans jamais s'arrêter. L'important dans la vie chrétienne, c'est pas forcément d'aller très très vite. L'important, c'est de ne jamais s'arrêter. L'important, c'est pas d'aller vite, l'important, c'est de ne jamais s'arrêter. Et la persévérance, derrière la persévérance, dans la Bible, il y a beaucoup de promesses. Je crois qu'on a déjà parlé de cette histoire de ce monsieur qui s'appelait John Wesley Powell. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, non? Alors je vais le rappeler. Ce monsieur, c'est un homme, ce n'était pas un coureur à pied, lui. C'est quelqu'un qui est né en 1834 aux États-Unis. Il a fait la guerre de sécession en 1860. Il a été amputé d'un bras. Et malgré cela, il faisait du canoë. Tout à l'heure, tu vois, on parlait de canoë. Moi, j'ai mal à l'épaule, j'en fais plus. Mais cet homme-là, il a eu à cœur, avec son bras en moins. Bon, je pensais pas lui qui, il se faisait conduire. Hein. C'est pas lui forcément qui devait ramer beaucoup, mais quand même, il a embarqué dans un canoë avec 9 autres personnes. Je crois qu'il y avait 2 ou 3 canots. Ils étaient 10 en tout, dont lui, pour aller explorer les gorges du Colorado. Alors, les gorges du Colorado, c'est 3 mois à peu près. 3 mois à pagayer, 3 mois sur des torrents extrêmement dangereux. Et il a parcouru comme ça à peu près 1500 km, 1500 km en 3 mois, pour explorer les gorges du Colorado, qui étaient des gorges complètement inexplorées, hein, qui n'avaient pas de carte. En 1869, il n'y avait pas de carte des gorges du Colorado, en tout cas, pas complètement. Et c'est quelqu'un qui a voulu établir, c'était un scientifique, un géologue, qui a voulu établir une carte de ces gorges. Et il s'est lancé à l'aventure. Au bout de presque 3 mois, 3 mois moins 3 jours, même un petit peu avant, la navigation était devenue extrêmement dangereuse. Et cet homme a failli arrêter, bien entendu. Mais il a décidé de continuer. Mais avant de continuer, il a dit à ses co-navigateurs, voilà, vous faites ce que vous voulez. Ceux qui veulent rejoindre la Terre et puis ensuite retourner à pied vers la civilisation, libre à vous de pouvoir le faire, parce que c'était possible. Il fallait marcher un petit peu quand même, mais c'était possible et apparemment moins dangereux que la navigation. Et il y a 3 personnes qui sont parties comme ça, 3 jours avant, qui sont parties 3 jours avant à l'aventure, à pied, pour rejoindre la civilisation. 3 jours plus tard, John Wesley Powell arrivait, lui, à bon port. Il avait parcouru, il manquait plus que 3 jours, hein. 3 jours pour parcourir toutes les gorges du Colorado. Les 3 personnes qui ont laissé tomber 3 jours avant se sont fait tuer par les Indiens. Cet homme, M. Powell, qui a persévéré jusqu'au bout, est arrivé à bon port, au bout du compte, malgré les dangers, alors que les 3 autres qui ont choisi la voie qui était peut-être plus facile, de vouloir rentrer à la maison à pied, eh bien, se sont fait tout simplement tuer par des Indiens qui étaient un petit peu... Voilà, ils se sont fait tuer par les Indiens. Ça illustre bien ça, la persévérance, elle doit aller jusqu'au bout. Vous ne savez pas, je ne sais pas, personne ne sait ce qui va se passer dans 3 jours, dans 1 an, etc. Peut-être que le problème que j'ai aujourd'hui, les problèmes que j'ai aujourd'hui, demain ils seront résolus. Peut-être demain, peut-être dans 1 mois, peut-être dans... on ne sait pas. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de courir avec endurance, c'est de courir avec persévérance. Il est dit, celui qui persévérera jusqu'au bout, je n'ai pas ma référence en tête, mais celui, ça me vient maintenant, mais celui qui persévérera jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Donc la persévérance, c'est extrêmement, extrêmement important si on veut arriver comme ça jusqu'au bout. Alors pour persévérer, vous allez me dire, mais c'est difficile parfois. Il y a des circonstances dans la vie qui nous essoufflent. Il faut le reconnaître un petit peu. Parfois, on est blessé aussi, puis on n'a plus envie de courir. Je parle de la course spirituelle. Et là, il y a un autre élément qui intervient, la grâce de Dieu, comme tu as dit tout à l'heure. Mais il y a un autre élément qui intervient, et vous allez pouvoir le trouver, c'est l'élément qui se trouve dans cette photo ici de course à pied. C'est quoi ?
La force ?
Non, regardez bien.
La volonté ?
Ah, il y a de la volonté. Ça, c'est sûr que sur leur visage, là, ça c'est la parlant joie. De volonté. Il y a de la joie. Mais regarde bien. Les deux, là, on a l'impression qu'ils courent l'un derrière l'autre. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, il y a un travail en équipe. En fait, ce que je vous projette là, c'est une course de relais. C'est un relais, hein. On voit bien, parce que sinon, il y a quelque chose qui cloche, hein. Ces deux-là, ils sont dans la même voie, ces deux-là aussi, etc. Donc, c'est un passage de relais. Et là, c'est le passage en équipe qui va intervenir, qui va nous aider à aller plus loin. Parce qu'on n'est pas tout seul. Et ça, c'est le rôle, vous l'avez bien compris, bien sûr, des amis, de façon générale, mais de façon plus précise, des amis, des frères et sœurs. C'est le rôle de l'Église. C'est un travail. La course n'est pas une course qu'on fait tout seul, mais c'est un peu comme une course de relais que l'on ferait avec les frères et sœurs. Hein. Vous savez comment... Je pense que vous connaissez le principe du relais. C'est ce bâton donc qu'on va donner à l'autre pour pouvoir aller plus loin. Et ça, c'est illustré par les versets qui sont répétés en fait dans la Bible. Colossiens 3,16, 1 Thessaloniciens 5,11 et Hébreux 3,13. Exhortez-vous les uns les autres. Exhortez-vous, c'est-à-dire encouragez-vous les uns les autres. C'est dit au moins trois fois, vous avez les références ici, dans le Nouveau Testament. Exhortez-vous les uns les autres. Parce que sinon, le coureur de fond qui part tout seul, c'est vrai que il faut de l'endurance, hein, il faut trouver des forces au-dedans de soi, que le Saint-Esprit nous donne. Mais on ne les trouve pas simplement au-dedans de soi-même, on les trouve aussi avec les autres. Moi, j'ai observé ça quand même, ça fait un certain nombre d'années que je suis chrétien. J'ai des copains qu'on laissait tomber. Des gens avec qui, il y a 35 ans, hein, j'ai évangélisé dans la rue avec des copains, que Monique, c'était des copains communs à l'époque. On a évangélisé dans la rue à Besançon avec eux, des gens qui étaient plein de flammes. Hein. Et puis maintenant, qui disent, faisant référence à ce qu'ils ont pu vivre il y a longtemps, c'était ma période religieuse. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Petit à petit, nous, on avait une église où il y avait des grosses difficultés. Donc, il y en a qui sont un petit peu partis dans la nature, comme ça, et ils n'ont pas pensé à rejoindre une autre église. Donc, petit à petit, ils ont quitté la fréquentation des frères et sœurs. J'ai vu dans leur bibliothèque les livres chrétiens, à un moment donné, au bout d'un an ou deux, qui disparaissaient. Puis après, dans la bibliothèque, non seulement il n'y avait plus de livres chrétiens, mais il n'y avait plus de Bible non plus. Puis encore quelques années plus loin, et puis là, je ne vous raconte pas la vie qu'ils ont pu avoir, mais c'est plus que triste. Parce que quand on arrive à 60 ans, et puis qu'on se dit qu'on a eu la foi jusqu'à 30 ans, mais que de 30 à 60, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir maintenant. Mais j'en connais, si vous saviez combien j'en connais comme ça, j'en connais vraiment beaucoup. Au moins une personne sur deux de cette église, une sur deux, qui s'est cassée la figure. Et qui, de 30 à 60 ans, disent, parlant de leur période, de leur conversion, c'était ma période religieuse. Rien que ma période religieuse. C'est quand même extrêmement troublant, c'est extrêmement difficile. Et pourquoi? C'est parce qu'ils ont quitté, les frères et sœurs. Ils ont quitté la fréquentation de frères et sœurs qui vous... Parce que s'exhorter, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire simplement, t'es bien gentil, ou je vais prier pour toi, etc. D'autres fois, ça veut dire tout simplement, aller voir quelqu'un. Alors attention, méfiez-vous, hein. Passez par les responsables des fois aussi. Mais ça peut être reprendre quelqu'un. Moi, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidé quand j'étais inconverti, mais évangélisé, je crois que j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. C'est quelqu'un qui, c'était à la fac, il y avait un groupe de chrétiens qui témoignaient aux étudiants qui passaient par là. Donc ils avaient un bureau comme ça, ils avaient des traités, et puis ils se mettaient de ce côté, bien sûr, du bureau pour discuter avec les étudiants, proposer des traités, proposer des réunions, etc. Et puis moi j'étais évangélisé, mais je n'étais pas chrétien. Et je me mêlais aux chrétiens, et j'évangélisais avec les chrétiens sans être chrétien. En faisant une théologie qui était un mélange de beaucoup de choses, voilà, c'était un petit peu bizarre. Et un jour, il y a un frère qui est venu voir, puis qui m'a dit, toi, tu ne te mets pas là. Mais là, parce que tu n'es pas chrétien. Alors, je veux dire, il était dur. Il a pas mis les gants. Hein. Mais il avait raison. Et il m'a grandement rendu service. Parce que c'est en me disant que je n'étais pas chrétien que je me suis posé la question, si je veux le devenir, qu'est-ce que je dois faire? Ce n'était pas clair dans ma tête. Et la personne a une excellente attitude avec moi, même si, méfiez-vous, hein, ça dépend. Il ne faut pas tout dire à n'importe qui de la même façon. Parfois, il faut passer par les responsables de l'Église pour dire certaines choses, etc. On est bien d'accord. Hein. Mais de temps en temps, exhortez-vous les uns les autres, ça peut être des encouragements un petit peu. Secoue-toi, bouge-toi, ou ce que j'ai fait tout à l'heure, quand je vous ai parlé des buts. Derrière, on dit, mais quel moyen tu te donnes pour y arriver, hein. Donc voilà, ici, donc, c'est la course de relais qui est le symbole de l'Église. Ce passage de relais qui est le symbole d'un encouragement, d'une exhortation qu'on peut se faire les uns les autres. Et puis, avant-dernière image, je crois, c'est celle qui me plaît le plus. Je vous laisse encore deviner de quoi il s'agit. Alors, le monsieur qui est à droite, effectivement, est aveugle. Là, c'est les Jeux Olympiques, para-olympiques, paralympiques, donc avec des gens qui sont handicapés. Donc ici, c'est un aveugle. Et puis à droite, c'est un monsieur le blanc qui voit correctement. Et comment est-ce qu'il fonctionne? Je ne sais pas si vous voyez. Alors, il y a une petite chaîne, effectivement, entre les deux mains à l'intérieur, ici. Et c'est celui qui court et qui voit, qui guide celui qui ne voit pas. Et j'ai trouvé que c'était une superbe image ici, non pas de l'aide que l'Église allait m'apporter, mais que Dieu peut m'apporter directement. Ça, bien sûr, ça peut être illustré par exemple par le psaume 73, verset 23. « Je suis constamment avec toi, tu m'as saisi la main droite. » Alors, ils ne se prennent pas la main, vous allez me dire, mais quand même, l'image est là. Hein. L'image est là, tu m'as saisi la main droite et Dieu me conduit. Dans ma course avec Dieu, il y a quelque chose qui est super, c'est que Dieu, il n'est jamais bien loin. Même si je ne le vois pas. Et l'image, là, elle est super parce que l'aveugle, il ne voit pas. Il ne voit pas, mais il entend le souffle. Moi, j'ai essayé de me mettre un petit peu à la place de l'aveugle. Hein. Il ne voit pas celui qui est à côté de lui, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il sent le souffle. Il sent la présence. Il entend les pas de celui qui court à côté de lui. Il y a tout un... C'est tout un monde intérieur, hein, dans le cas de l'aveugle, qui il perçoit à l'intérieur ce qu'il ne voit pas à l'extérieur. Le souffle de celui qui est à côté, les pas de celui qui est à côté. Moi, j'aimais bien, il y a longtemps, un vieux chant qui disait « Écoute, écoute les pas du Seigneur vers toi. Écoute, écoute, il marche tout près de toi. » C'est exactement la situation de cet aveugle par rapport ici à cet homme qui est voyant et qui le guide. « Dieu me guide. » Dieu n'est jamais bien loin. Et quand je fais attention d'écouter un petit peu, j'entends ses pas, j'entends son souffle. Je sais qu'il est là. Il n'est jamais bien loin, même quand je suis dans les difficultés. Un petit témoignage, dites-moi si vous l'avez déjà entendu, mais que j'ai vécu il y a quelques années maintenant, c'est une période un petit peu difficile. Et je suis allé à... J'ai déjà dû le raconter quand je suis allé à la gare. Qui a déjà entendu? Monique, tu lèves pas la main. C'est bon, ça, toi c'est normal. J'étais à la gare, puis il y a une dame qui a posé un petit morceau de papier. Tu l'as entendu, Nathalie? Donc je la raconte, ça va? Et je vais vite. Il y en a d'autres, tu l'as entendu? Tu l'as entendu, ça va? David? Non, c'est bon, allez, pour ceux qui n'ont pas entendu. Là, donc j'étais un petit peu démoralisé, puis pour aller au travail, moi je prends le train. Et donc je prends le train à Saint-Vite, et prenant le train à Saint-Vite, ben, j'étais là en train de méditer sur le sens de la vie, je plaisante, je suis croyant quand même, hein. Même si quand on a du vague à l'âme, le Seigneur est là. Et puis je vois un petit peu plus loin une jeune femme qui lisait quelque chose, et puis même de loin j'ai reconnu, c'était un petit feuillet de calendrier chrétien, je ne sais plus si c'était la bonne semence ou autre, mais on le voit bien, on a l'œil maintenant, hein, on connaît les petits versets comme ça, on les reconnaît à 100 mètres. Puis je voyais bien qu'elle lisait, mais je n'ai pas osé aller vers elle. Hein. J'ai vu qu'elle lisait, puis à un moment donné, ben, le train arrive, donc ben, moi j'ai mon vélo, donc il faut que je monte dans le wagon où on peut accrocher les vélos. Elle est montée dans un autre wagon, donc je n'ai pas pu échanger avec elle non plus. Mais elle a pris soin, avant de monter dans le train, de prendre son petit feuillet et puis de le poser sur le siège sur lequel elle était assise. Donc c'était un abri train, donc vous voyez ce que c'est des abris en verre, transparent, mais c'est ouvert. Et elle a fait attention, c'est évident qu'elle ne l'a pas oublié, c'était une sœur qui était intelligente. Elle a pris ce petit feuillet et puis elle l'a posé sur son siège. Là-dessus, on monte dans le train, moi je vais à Besançon, elle, je ne l'ai jamais revue. Et puis toute l'après-midi, parce que j'ai pris le train en début d'après-midi, toute l'après-midi, ça me tarabustait un petit peu, mais ce feuillet, c'était pour toi. Alors j'étais en cours, hein. Donc je n'ai pas quitté les cours pour retourner à la gare de Saint-Vite, parce que je me serais fait un petit peu disputer. Mais j'ai dit au Seigneur, ben écoute, si c'est pour moi ce soir, le moins que je puisse faire, c'est retourner à l'endroit où elle l'a laissé, regarder éventuellement par terre ou dans le coin si je retrouve ce feuillet. Et c'est ce que j'ai fait. Le soir, donc, je suis rentré de Besançon à Saint-Vite. Je suis allé voir là où cette jeune femme avait laissé le petit feuillet chrétien de calendrier. Et puis, il était encore là. Alors il aurait pu s'envoler, quelqu'un aurait pu le prendre. Hein, je suis passé 5 heures plus tard quand même, hein, il s'est passé à peu près 5 heures. Hein. Et il était encore là, et j'ai pris ce verset et je l'ai lu. Et c'était un verset de l'Ancien Testament qui dit la chose suivante, « Je t'ai porté comme un père porte son fils ». Et quand j'ai lu ce verset, j'ai vécu quelque chose d'aussi fort que ce qu'on peut vivre dans certains moments de louange très forts dans l'Église. C'est-à-dire quelque chose qui vous donne envie de vous asseoir parce que je me sentais pas bien. Enfin, je me sentais pas bien, non, c'est pas ça. Je me sentais tout drôle. Plutôt, c'est un verset j'ai senti quelque chose qui coulait sur moi, quelque chose qui m'a imprégné, quelque chose qui est descendu. Et quand j'ai voulu dire ce verset, quand j'ai voulu le parler, je n'ai pas pu le parler. Impossible. Chaque fois que j'ouvrais la bouche pour le dire, ça coinçait complètement au niveau des cordes vocales. Je n'ai pu le dire qu'au moins un mois plus tard. Alors pourquoi ? Parce que je crois avoir compris, il fallait que, avant que ça ressorte, il fallait que j'aie digéré ce verset. Et il a fallu du temps pour que je le digère. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup encouragé. Et là, je me suis dit, mais il est vraiment... Hein, j'étais porté comme un père porte son fils. Un petit enfant, bien entendu. C'est pas moi avec Samuel qui... J'étais porté comme un père porte son fils. Je suis constamment avec toi. Ça aurait pu être la suite du verset. Je suis constamment avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que dans cette course avec Dieu... Et tu as commencé par là, je pourrais presque terminer par là. Il y a la grâce de Dieu qui m'aide à continuer la course et à ne jamais arrêter. Je terminerai par une dernière image. Ah oui. Et là encore, je n'ai pas besoin du verset. Est-ce que vous reconnaissez ici le coureur que l'on voit à droite ? Il y a quelque chose de spécial, ce gars. Il n'a pas de jambes. Donc effectivement, alors c'est Oscar Pistorius. Alors il est arrivé des problèmes maintenant, puisqu'il a été reconnu, apparemment, il aurait assassiné de façon involontaire sa fiancée. Donc il y a quelque chose de trouble. Mais à l'époque où j'ai sélectionné cette photo, ça m'avait beaucoup plu. Pourquoi ? Parce que c'est le seul monsieur qui court avec des gens valides, mais en leur faisant vraiment concurrence. Hein. Il court le 100 mètres en moins de 11 secondes. Donc il avait été sélectionné pour les Jeux Olympiques valides. Alors que lui, il court avec des prothèses. Mais bon, les prothèses, ce n'est pas des prothèses bon marché, évidemment. Hein, c'est des super prothèses. Mais quand même, il faut se mettre à sa place. Et ce qui m'a plu chez ce gars-là, c'est un petit peu son histoire. On l'a amputé des deux jambes comme ça quand il avait 9 mois. Ou à peu près, quand il était bébé. Et cet homme, malgré tout ce qu'il a pu faire depuis, hein, cet homme, il a su s'adapter. Il a su adapter sa course à ce qu'il était. Parce que des fois, on pourrait dire, mais moi, pour Dieu, qui suis-je pour travailler pour Dieu ? Qui suis-je pour faire ? J'ai tel problème. Alors, tel problème physique, tel problème moral, tel problème psychique. Donc, je peux pas faire quelque chose pour Dieu. Rends-toi compte, je peux pas continuer la course. J'ai trop de difficultés. Et cet homme nous montre... En même temps, je l'ai dit tout à l'heure, hein, on peut aller confier ses difficultés à quelqu'un, on peut prier avec quelqu'un, on peut se faire aider par les frères et sœurs, on peut se faire aider par l'Église, on peut se faire aider par Dieu directement qui court à côté de nous. Mais en même temps, il faut continuer la course quand même, il ne faut pas arrêter. Dans l'état dans lequel on est, je crois que le principal pour un chrétien, c'est on peut ralentir, mais il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas s'arrêter trop longtemps. Il faut avancer quand même un petit peu. Et ce monsieur nous prouve que c'est possible. Ce monsieur nous prouve que c'est possible de ne pas arrêter la course. Parce qu'il a su adapter sa situation d'handicapé hein, à la course. Et je trouve que c'est une belle image parce que malgré ses difficultés, malgré ce qu'il est, il a su quand même aller plus loin que ses difficultés. Pour atteindre quand même... pour atteindre un niveau qui est un niveau international en course à pied. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin concernant la course avec Dieu. Moi, l'image qui me touche le plus, je crois, c'est certainement cette image avec l'aveugle. Il m'a pris la main droite et puis il court à mon côté. On peut prier quelques instants, si vous voulez. Seigneur, je te prie que ces images, l'une ou l'autre, nous reviennent en mémoire avec leur illustration dans les jours, dans les semaines qui viennent, et qu'elles puissent nous aider à continuer notre marche avec toi, avec persévérance, avec les frères et sœurs, avec toi qui prends notre main, avec ce que nous sommes et malgré parfois, souvent, ce que nous sommes. Seigneur, je te prie d'encourager mes frères et sœurs, je te prie de m'encourager moi-même dans les temps qui viennent à ne jamais arrêter la course, mais à nous adapter et à garder la main dans la main avec toi, continuer d'avancer, continuer de te servir, continuer de marcher de progrès en progrès, continuer la course avec toi, parce que c'est une course, Seigneur, qui a un but final qui est enthousiasmant, parce qu'un jour, toi-même, sur la ligne d'arrivée, tu seras là et tu auras les bras ouverts pour nous accueillir en disant, ben, c'est bien, t'as fait beaucoup de bêtises, t'as pas fait tout ce qu'il fallait, mais t'as pas arrêté la course, t'es allé jusqu'à la ligne d'arrivée. Seigneur, qu'un jour tu puisses nous dire cela. Amen.